Je suis à présent en compagnie de Bruno Lotte, de Régis Loisel et de Claude Verne. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Alors Claude Verne, vous êtes bien sûr président de la communauté de communes du Val d'Amboise, mais vous êtes aussi sur le festival BD Les Courants, bénévole et programmateur.
Ça me va bien, ouais. Ça me va bien. On va oublier Val d'Amboise et puis ouais. Le politique et parler que de culture et de plaisir et puis de BD. Voilà.
Alors cette année sur le festival, on en a interviewé pas mal hein, depuis le début de cette émission. Cette année, il y a 30 auteurs invités. C'est quand même un chiffre important. C'est la première fois qu'il y a autant d'auteurs invités sur le festival.
Alors, on bordaille les 30 auteurs, mais là, 30 auteurs, ça me semble correct pour le site.
Ouais.
Et ça reste complètement familial.
D'accord. On entend derrière en fait hein, les balances d'un groupe à venir, donc c'est pour ça si vous entendez des interférences, ça vient de là. Alors l'idée de ce festival, c'est de mettre en avant les auteurs et les illustrateurs de BD.
Auteurs, illustrateurs, scénaristes, oui ça balance bien derrière moi. Comme quoi c'est multiculturel, il y a de la BD, de la musique, mais ça se marie bien les deux, il y a pas de souci. Oui, tous les métiers de la BD en fait.
Oui.
Vraiment tous les métiers de la BD. Alors effectivement des vedettes comme Régis, Bruno, voilà. Et bien évidemment d'autres qui débutent ou qui galèrent un peu, qui s'autoproduisent, etc. Et puis surtout des gens du cru qu'on aime bien et qu'on revoit chaque année.
Oui. Alors avant de passer la parole à Bruno Lotte et à Régis Loisel, un petit mot justement sur la naissance de ce festival. Comment est-ce qu'il est né et pourquoi ?
C'est peut-être en partie mes origines, puisque je suis originaire du Nord, donc la franco-belge, ça me parle un petit peu. Pour autant, quand je suis arrivé ici, il y a quand même les rencontres font qu'à un moment donné, ben, on rencontre ceux qui gèrent les courants, ils font la musique, etc. Et je, plutôt que de créer un festival tout seul dans mon coin, voilà, moi j'aime bien mutualiser, travailler avec les autres. Et puis quand ça matche bien, qu'il y a beaucoup d'humanité plutôt, ben voilà, on fait les choses et puis ça fait 12 ans que ça dure, on communique ensemble et puis ça fonctionne bien sur le territoire, il n'y a pas de souci, on arrive à trouver des bénévoles, des gens qui n'étaient pas issus de la BD et qui adorent la BD maintenant, par son contact humain aussi, par les rencontres, et puis on arrive à avoir une belle famille aujourd'hui au niveau du festival BD.
Alors ce festival a lieu à Saint-Ouen-les-Vignes, c'était aussi l'idée de créer un festival en ruralité, parce que je crois qu'au début ça a commencé sur Amboise.
Amboise, effectivement, Amboise, le Colusset, des bons souvenirs pour les bénévoles un peu moins, parce que c'était très très fatigant, mais le but effectivement, on a un territoire qui s'appelle Val d'Amboise, donc 14 communes, un pôle urbain, mais la ruralité, puis des magnifiques village, bah, celui de Saint-Ouen est magnifique.
Oui. Alors cette année, le festival avait une thématique, hein, c'était l'aviation.
Oui, autour de Francis Bergès, voilà, mais on voit que il y a plein de thèmes différents. Et en particulier aussi, bien évidemment, au profit des 500 ans de la mort de Léonard.
Bien sûr, justement, l'affiche du festival est une affiche faite par Francis Bergès qui représente justement Léonard de Vinci.
Tout à fait.
Il fallait sauter sur l'occasion, on ne pouvait pas passer à côté des 500 ans.
Non, c'était la bonne occasion.
Ouais. Alors, Régis Loisel, vous êtes auteur de La Quête de l'Oiseau du Temps, du Magasin Général ou encore de Peter Pan. Et vous avez rendu un hommage récemment à Mickey dans votre dernier album qui s'appelle Café Zambo. C'est une reprise du Mickey des années 30 façon comic strip.
Oui, tout à fait, parce qu'au départ, Mickey sortait dans les journaux. Et quand je dis journaux, c'est les quotidiens. Et chaque jour, il y avait un strip, donc ce qu'on appelle un strip, donc une bande dessinée. Et donc, voilà, donc moi, quand on m'a proposé de faire ça, j'ai évidemment sauté sur l'occasion parce que c'était vraiment un rêve d'enfant pour moi. Et donc, je l'ai fait à cette sauce-là. C'est-à-dire que je l'ai dessiné en strip au départ et c'est sorti donc deux strips par planche. Là.
D'accord. Est-ce que Mickey, justement, c'était un personnage qui vous a inspiré quand vous étiez plus jeune? Est-ce que vous regardiez, vous lisiez
Bien sûr, ouais. Bien sûr. Moi, je suis issu de Mickey. Hein. D'ailleurs, je le dis dans la préface, il y a une préface qui remercie tous ces gens qui m'ont influencé quand j'étais gamin, parce que quand vous faites un métier comme le nôtre ou même un musicien, c'est toujours lié à l'enfance. C'est toujours parce que enfant, vous avez eu un déclic. Et ça, c'est formidable, ça. Donc moi, j'ai eu ce déclic-là à travers les dessins animés de Disney, Mickey notamment. Et de là, je suis venu très très vite à la bande dessinée.
Quoi. Mm-hmm.
Donc je me suis construit sur Mickey. Et puis après, j'ai eu d'autres influences, comme tout autre dessinateur. On pousse sur cet humus qui est, moi ça a été Disney, après ça a été des gens comme Wallace Wood, enfin des Américains du journal Mad, mais il y a eu Franquin, il y a eu Uderzo, Maurice, une pléthore de gens quoi.
Alors du coup, c'est quoi pour vous la différence? Enfin, j'imagine que la façon de travailler en faisant du comic strip, là, ce que vous avez fait sur votre dernier album, et la BD classique, il y a une différence. Qu'est-ce qui vous plaît justement et en quoi c'est différent?
Bah, c'est différent uniquement dans le rythme, parce que vous avez une bande, donc un strip, dans lequel vous devez mettre une situation, donc ça va très très vite, hein. En général c'est 4 dessins, donc à 4 dessins il faut déjà amener un, si c'est pas un gag, c'est au moins une situation qui soit dynamique, et c'est une narration qui est complètement différente, quoi, qui se fait d'une manière horizontale, alors que dans une bande dessinée traditionnelle vous avez le côté horizontal et puis vous avez tout le reste de la page, donc ça part de droite à gauche, et puis il y a des diagonales, enfin il y a des lignes de force dans le strip, c'est très simple. Hein.
C'était une façon pour vous de vous attaquer à autre chose, de faire du comic strip ou...
Non, c'était vraiment parce que j'avais envie de retrouver le Mickey de mon enfance, enfin de mon enfance, oui, et puis de faire, de participer à cette aventure, ouais. Quoi. C'est tout. Hein. Moi, c'était un panard, je crois que j'ai jamais pris autant mon panard dans toute ma carrière. Il y a plus de 45 ans que je fais ce métier-là, et je crois que ça a été vraiment le truc le plus formidable pour moi.
Vous allez en faire d'autres alors, peut-être?
Non, ça y est, j'ai réglé ça, voilà, j'ai fait ma croix, Mickey c'est fait, et puis après il y a d'autres histoires à raconter.
Popeye, quoi.
Popeye, oui, j'avais pensé, je sais pas si je t'en avais parlé ou j'en ai parlé à plusieurs personnes en disant si je dois faire autre chose, ce sera un Popeye.
Popeye, d'accord.
Mais c'est pas évident encore. Hein.
Vous, justement, Bruno Lotte, est-ce que vous avez eu envie peut-être de faire du comic strip à un moment donné dans votre carrière?
Non, parce que en fait, j'ai pas eu la même démarche intellectuelle que Régis. Moi, j'ai envie de raconter des histoires et il se trouve que je les raconte en BD.
Oui.
Voilà, c'est... Après, c'est vrai, quand on y réfléchit, il y a certaines nostalgies qui pourraient nous amener à faire comme ça. Mais bon, pour l'instant, moi, j'ai commencé dans la BD, contrairement à Régis ou à d'autres, j'ai commencé très tard, puisque ma première BD, je l'ai faite, j'avais 45 ans. Donc, voilà, j'ai une carrière, il faut que j'aille très vite si je veux sortir tout ce que j'ai à sortir. Donc voilà.
Mais, pourquoi vous êtes venu tard à la BD? Vous faisiez autre chose avant?
Parce que je faisais de l'illustration.
D'accord.
Avant. Et voilà, mais depuis tout petit, en fait, ce qui me donnait envie, c'était, bon, évidemment, j'étais un peu doué pour le dessin.
Ouais.
Donc je dessinais, mais j'avais envie de raconter des histoires. Et ce qui a pris le dessus, au bout d'un moment, c'est le fait que je racontais pas assez d'histoires, même si dans une illustration, des fois, on peut raconter une histoire. Mais... Donc la BD, c'était vraiment le support idéal pour ça, évidemment. Donc voilà, je suis passé à la BD.
Alors, votre
mais
première...
il a fallu que j'attende d'avoir 45 ans pour m'en rendre compte, c'est dommage.
T'as commencé vraiment tard, hein.
Ouais,
c'est incroyable ça.
Et justement, votre première bande dessinée, c'était Hermo, ouais, qui retrace la guerre d'Espagne à travers les aventures d'un jeune adolescent. Et vous avez d'ailleurs justement créé votre propre maison d'édition pour pouvoir éditer et réaliser cet album.
Oui, mais c'est toujours la même chose. À 45 ans, j'avais pas trop envie d'aller faire toc-toc à tous les éditeurs pour montrer mes planches, comme je l'avais fait d'ailleurs quand j'avais 15 ans. Quand j'avais 15 ans, j'avais été tapé aux portes des éditeurs. J'étais de Bordeaux et je montais à Paris, à la capitale, aller voir les éditeurs. Donc à 45 ans, j'avais pas envie de le faire et j'avais surtout peur du refus. Donc j'ai commencé par m'auto-éditer, donc les premiers albums. Et puis très vite, il y a un éditeur qui m'a contacté, qui m'a repéré sur un festival. Comme un festival comme ici.
Comme quoi.
Voilà, et du coup, c'était la boîte à bulles et j'ai bossé avec eux.
Vous allez rééditer, voilà. Justement
J'ai réédité Hermo et j'ai édité d'autres bouquins chez eux comme Ouvrier et dernièrement Guernica.
Oui, on va en parler justement. Mais juste un mot sur votre maison d'édition qui s'appelle Libre d'Images, c'est
Libre
ça?
Libre d'Images, oui.
C'est... Enfin, c'est une façon de dire peut-être qu'on est libre, quand on est plus libre quand on crée sa propre maison d'édition.
Certainement, oui. On est plus. C'est une vision de l'esprit, parce qu'on peut être libre aussi chez un éditeur, puisqu'on n'a pas toutes... Parce que c'est des contraintes quand même d'avoir sa propre maison d'édition. Il faut aller voir un éditeur, il faut démarcher les libraires, etc. Finalement, aujourd'hui, avec la boîte à bulles, je me demande si je ne suis pas plus libre.
Ah d'accord,
Et je continue quand même à faire les salons et à vendre mes propres bouquins sur les salons. Mmh. Donc j'ai quand même ce contact que j'aimais bien et que j'ai toujours aimé avec le public. J'adore discuter avec les gens. Et du coup, je continue à faire des festivals.
Vous aussi, Régis Loisel, vous aimez rencontrer vos lecteurs sur ce genre de festival, justement ?
Je déteste les lecteurs. Je les hais. Non, j'adore, évidemment. Non, c'est sympa. C'est très très bien. D'autant plus qu'avant, je faisais des dessins. Je faisais des dédicaces dessinées. Et j'avais... Alors, c'est pas... je le dis tout à fait humblement, il se trouve que en fait j'avais énormément de monde et je faisais, c'était des marathons de dédicaces entre 6 et 8 heures par jour le festival. Et je ne rencontrais pas les gens, j'étais complètement ça n'avait aucun sens. Donc il y a eu un moment, il y a 13-14 ans, j'ai arrêté carrément de faire des dédicaces dessinées. D'accord. Et là maintenant c'est un vrai plaisir que de rencontrer les auteurs,
les lecteurs aussi, c'est l'occasion aussi, j'imagine.
Évidemment, donc ça pour moi c'est très sympa. Donc là j'ai passé toute ma matinée à discuter avec les, en faisant des dédicaces mais écrites, et ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus simple, je rencontre les gens, on papote, on se rencontre, et ça fait je trouve que c'est beaucoup plus intéressant.
Et justement ce festival là s'y prête à la rencontre avec les lecteurs, on a peut-être plus le temps de discuter, d'échanger.
Ah ben complètement, c'est quand même un cadre extraordinaire, hein. C'est la première fois que je viens moi par contre, et c'est vraiment très très bien.
Mm-hmm. Alors, pour revenir justement à Bruno Lott, tout à l'heure on parlait de Guernica, hein, qui est un de vos derniers, albums.
Mon dernier album.
Le dernier album.
Enfin, le dernier réalisé et fini, parce que j'espère que ça ne sera pas le dernier.
Oui. Alors, dans cet album, vous parlez de la guerre d'Espagne, hein, et notamment avec l'ouvrage aussi Dolores.
Oui.
Du coup, c'est un thème qui revient souvent chez vous ?
Je parle souvent de la guerre d'Espagne. C'est le thème qui m'a donné envie, justement, de ma première BD qui était Armo.
Ouais.
Et j'ai essayé de m'en éloigner, mais j'y suis revenu. Comme quoi, il y a des choses... Bon, il faut dire que mon épouse étant espagnole, d'accord, je suis tombé amoureux de ma femme et de l'Espagne en même temps.
D'accord.
Donc, voilà, et de l'histoire de l'Espagne.
Alors là, Guernica, hein, ça parle du bombardement de cette ville pendant...
Voilà, c'était en 1937, ouais. Guernica a été bombardée et ça a suscité à Picasso de faire donc le fameux tableau qui est connu de tout le monde, qui porte le même nom, Guernica.
Vous l'avez lu, vous, Claude Verne, cette...
Je viens de me le faire dédicacer.
D'accord, donc vous allez le découvrir.
Il y a... Moi, je ne sais rien faire. Je ne sais pas dessiner, je ne sais pas écrire. J'aimerais pouvoir écrire. Moi aussi, j'ai envie de raconter des histoires. Et j'ai besoin d'eux pour me faire... voilà. Là, par exemple, avec Bruno, avec Régis, on découvre des mondes incroyables, quoi. Et je trouve que tout le monde devrait s'approprier à un moment donné, échanger avec les auteurs, c'est encore mieux.
Ouais.
Et puis, ils vont découvrir des univers qu'ils n'imaginent même pas. Mmh. Et c'est hyper intéressant. Puis, il y a là, par exemple, pour Ouvrier, je sais que Bruno, je l'ai rencontré sur un festival. Ça m'a ému, c'est l'histoire de son père. La réalité, c'est ça. C'est un vécu historique et puis on ressent les choses à travers des dessins. Comment faire ressentir, ça m'interpelle, quoi. Faire ressentir des choses via des dessins. Une petite écriture, dessins, c'est juste magique pour moi. Et ça restera magique tout le temps.
Alors vous êtes venu, j'imagine, sur le festival avec donc vos albums, hein, Guernica, peut-être Dolores aussi.
Oui.
Et vous avez aussi un projet là, c'est de mettre en fait deux grandes figures face à face de l'anarchie en fait, c'est Durutu et Macno, c'est ça ?
Voilà. Oui,
un petit mot sur ce projet ?
Alors c'est un projet qui... Alors souvent mes albums parlent donc de sujets qui traitent de l'histoire en fond.
Oui.
Et qui raconte la vie quotidienne souvent des gens, comme ce que venait de dire Claude, ouvrier, qui parlait de mon père. Donc à travers la vie de mon père, je raconte la vie quotidienne des ouvriers, ce qui m'intéresse. Et là, je vais raconter donc un événement qui s'est passé en 1927, un événement connu de personne évidemment, mais c'est une rencontre qui a eu lieu Paris en 1927 entre plusieurs anarchistes, dont deux anarchistes assez célèbres, disons, Durruti, qui était un anarchiste espagnol, qui a eu ensuite, donc là ça se passe en 1927, donc il n'a pas encore sa grande heure de gloire qui est en 1936 pendant la guerre civile, et ce personnage donc va rencontrer Makhno, qui lui est un Ukrainien qui a fait la révolution anarchiste en Ukraine en même temps, en 1917,
d'accord, okay,
en même temps que la révolution russe.
Okay.
Donc je passe, tout se passe en huis clos dans une chambre, mais ça part de l'Ukraine à l'Amérique du Sud, en Espagne, voilà, on voyage un peu partout.
Ouais. Voilà. Okay.
Avec évidemment de l'aventure, puisque ces anarchistes, du moins Durruti, va faire des hold-up en Amérique du Sud pour, grâce à l'argent, constituer des bibliothèques sociales, etc. Bon, enfin bref.
À découvrir.
À découvrir.
Vous, Régis Loisel, vous êtes venu, j'imagine, donc avec votre dernier album, Café Zambo. Et d'autres choses ?
Je suis venu les mains dans les poches.
Ouais.
Ce sont les libraires qui sont venus avec mes bouquins, parce que quand je suis venu ici, on m'a dit, mais qu'est-ce que vous allez dédicacer ? J'ai énuméré un petit peu ce qu'il y avait à dédicacer, à savoir Peter Pan, La Quête, Mickey, Magasin Général. Voilà. Donc, effectivement, mon dernier album, c'est Mickey, mais Mickey, c'est quand même 2016. Hein,
ouais,
donc,
ça fait 2-3 ans, ouais.
Ça fait 3 ans. Donc, il est temps que je me remette au travail. Alors, après, j'ai fait d'autres albums. J'ai fini Le Grand Mort et j'ai commencé un premier opus qui est sorti qui s'appelle Un putain de salopard.
Ouais.
Où là, je suis le scénariste seulement, hein, je ne suis pas dessinateur.
D'accord, vous avez souvent été scénariste ?
Non.
Non, rarement en fait.
Non, oui, de comme ça. En fait, j'ai jamais eu cette velléité d'être scénariste, jamais. J'ai jamais proposé quoi que ce soit à qui que ce soit. C'est simplement des gens qui viennent me voir en disant, tiens, Régis, t'arrives pas un scénario à me proposer. Alors, comme j'ai pas mal effectivement d'idées de scénarios que j'ai notées dans ma vie, je dis, oh, bah ouais, tiens, j'ai un truc, je sais pas si ça va t'intéresser, je le raconte en deux mots ce que c'est. Ah ouais, ça m'intéresse. Et alors là, je suis, comme disent les Québécois, je suis pogné avec ça, je suis obligé de le faire, ce qui n'est pas toujours, facile. Mais je le fais vraiment par amitié et surtout pas parce que je veux faire un album de plus, hein, pas du tout.
Ouais. Vous avez un projet, justement, une idée pour un prochain album ? Vous êtes en train de travailler sur quelque chose en ce moment ?
J'essaye de me mettre dessus, mais c'est l'été, j'ai ma famille qui est en vacances chez moi depuis 2 mois, c'est très difficile.
D'accord.
Donc j'attends la fin de l'été, puis je vais m'y mettre.
Voilà. Vous ne voulez pas nous en dire un mot ? Non, c'est pas trop frais.
Non, c'est pas que je veux pas vous le dire, mais c'est un truc, ce sera une histoire un petit peu poético, c'est poétique, un peu d'aventure, un peu, voilà, une histoire d'amour en même temps.
D'accord.
Impossible, une histoire d'amour impossible.